on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC Motors. Jean Lecroix.
Bonjour à tous, vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Oui, il ne fait pas beau, mais comme vous êtes en train d'écouter RMC, eh bien vous allez avoir plein de nouvelles des sports mécaniques. Et je vous l'ai dit, ce sera très varié aujourd'hui puisque le sommaire est extrêmement varié avec trois championnats du monde au programme carrément. La Formule 1, les rallyes de championnat du monde et puis les GP de vitesse moto et puis cette épreuve atypique, cette épreuve nouvelle qui est en train de monter en puissance, le Silkway Rally. Mais tout de suite, la porte est ouverte à la Formule 1 en compagnie bien sûr des membres de la Dream Team, en l'occurrence l'excellent Louis Amar. Salut Louis.
Salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Et puis le non moins sémillant Adrien Tambay, bien sûr, qui est avec nous. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc, salut Louis, salut à tous.
Salut Adrien.
Allez, on va attaquer dans le vif du sujet. On va revenir, si vous voulez bien, messieurs. On commence avec toi, Louis, sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je le disais, échevelé, je sais pas si c'est le mot qui convient. En tout cas, mouvementé à tous les niveaux. On a pratiquement tout eu. On a eu la totale.
Bonne nouvelle, on a retrouvé notre voix déjà.
Oui,
c'était pas
bien.
Gagné.
C'est vrai,
pas
c'est gagné. Vrai. On nous a dit qu'on avait fait trembler les murs du studio.
Exactement.
Donc,
on le prend comme un compliment.
Oui, on le prend bien.
Non, c'était un Grand Prix complètement dingue. Je pense qu'on est tous encore en train d'atterrir un petit peu avec tous les changements qu'il y a eu. Évidemment, Hamilton avec son headrest alors que la course lui était offerte.
Incroyable.
Vettel qui prend 10 secondes de pénalité après avoir donné justement un coup droit à Hamilton, l'accrochage entre Ocon et Perez, le premier podium de Stroll, et on en oublie encore sans doute.
On en oublie l'accrochage au départ entre les deux Finlandais. Alors Adrien, justement, bon, c'est ça la Formule 1. Alors évidemment, on va engager la négociation et la discussion là-dessus avec lui. On en parlait hors antenne. Tu sais qu'il y a une espèce de cabale britannique, je pèse mes mots, qui est en train de vouloir dire ce qu'a fait Vettel, c'est inadmissible, c'est une agression d'une violence extrême. Bon, on en parlait en live, hein, c'est le cas de le dire, la semaine dernière en direct sur cette antenne pour commenter le Grand Prix. C'est pas bien, Adrien, on est d'accord. Mais enfin, ça, il n'a pas éliminé Hamilton non plus dans cette collision. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, vraiment.
Je suis assez d'accord avec les propos d'un certain Jenson Button, Jean-Luc, qui a pris quelque part un peu la défense de Vettel sans pour autant cautionner le geste, parce que le geste, on ne peut pas le cautionner. Et je pense que Sébastien Vettel lui-même regrette être un peu, être sorti de ses gonds.
Bah évidemment, évidemment.
Mais à un moment donné, il était vraiment à la limite du règlement, Lewis Hamilton, et c'est une réaction humaine, peut-être pas digne d'un champion du monde, mais en même temps, c'est ce qu'on aime voir. Il a été, comme tu le dis, pénalisé sur la piste. Ce n'est pas la faute de Vettel si Lewis Hamilton et Mercedes ont perdu la course à cause d'un headrest. Ce n'est pas à cause du contact avec Vettel. Donc maintenant, moi je dirais, restons-en là et laissons place au sport parce que le résultat n'a pas été tronqué.
Et on passe à autre chose. Et tu as parfaitement de raison de remettre le ballon, on va dire, au milieu du terrain ou la niche du chien, comme on dit, au milieu du village. En tout cas, Louis, on en parlait parce qu'effectivement, après, le geste est répréhensible, c'est une évidence, parce qu'en plus, c'est un geste de colère, il doit se maîtriser. Alors, pour remettre les choses dans l'ordre, on va pas passer l'émission là-dessus, il est clair que Hamilton n'a pas freiné, mais il a levé le pied, ça c'est sûr. Donc quand on est derrière à quelques centimètres, bah évidemment, la collision était inévitable. Si elle était évitable, bah évidemment que Vettel l'aurait évité.
Oui, et puis l'observation des télémétries montre que Lewis Hamilton n'a pas freiné davantage que lors de la précédente intervention de la voiture de sécurité au même endroit. Sans quoi, l'investigation qui a été faite par les commissaires de piste aurait également donné lieu à une sanction pour Lewis Hamilton parce que sa conduite aurait été jugée dangereuse. Il a été blanchi dans cette affaire, Lewis Hamilton.
C'est évident. Non,
et c'est Vettel qui a été pénalisé uniquement.
Voilà, il a un petit peu cherché, ni plus ni moins. Il a un peu titillé. Il a cherché surtout à casser son élan avant le restart.
Oui, parce que la filouterie messieurs.
Oui. Je vous interromps deux secondes. C'était pas la technique de Lewis Hamilton, on peut pas comparer sa deuxième tentative et cette relance-là avec celle d'avant, puisqu'il le fait à chaque fois et ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que normalement, la règle est qu'une fois qu'on relance, on relance. On n'a pas le droit de ralentir.
D'interrompre son élan, voilà.
Exactement. Et le problème, il est peut-être ailleurs. C'est pas Lewis Hamilton le problème. Lewis Hamilton, il utilise le règlement, il n'est pas pénalisé parce que justement, il joue avec ce règlement et il le fait très bien. Il y souxe. Et voilà, le règlement est peut-être à revoir parce qu'il y a une zone un peu grise.
D'accord.
Oui, et il a effectivement réussi à en profiter, Lewis Hamilton. Ouais. Et après, on est rentré dans une guerre psychologique entre Hamilton et Vettel. Évidemment, sur la fin de la course, qui s'est déroulée à peu près sans anicroche entre les deux. Mais ensuite, parce que donc Lewis Hamilton, il s'est présenté devant nous tout de suite après la course, donc devant les télés et les radios, donc du monde entier. Et là, il utilise une formule en disant bon, vous avez tous vu les images, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc il est encore un petit peu filou, un petit peu roué dans sa façon de le jouer.
Faites-vous votre opinion, mais elle est en ma faveur.
Exactement. Non, t'as tout compris, en surjouant le type abattu, accablé, et puis ensuite, il va voir sa presse, la presse anglaise, uniquement la presse écrite, donc des journalistes qui le suivent depuis très longtemps, qu'il connaît très bien.
Dévoué à sa cause, on y va carrément.
Et là, il sort les violons, parce que c'est à eux qu'il explique que, vous comprenez, il y a beaucoup de jeunes pilotes qui nous regardent, que ça peut être très dangereux, que si des jeunes prennent exemple sur Sébastien Vettel, on va vers de graves accidents, soit en kart, soit dans les catégories inférieures avant la Formule 1. Et c'est cet argument-là qui, en fait, a été repris en boucle par la presse anglaise, avec une phrase scandée par Hamilton, qui est « ça n'est pas digne d'un quadruple champion du monde ». Donc il appuie vraiment où ça fait mal. Et dernière chose, toujours dans la guerre psychologique, il a été fort, Hamilton, parce qu'il dit « en fait, cette histoire a permis de révéler la vraie nature de Sébastien Vettel ». C'est-à-dire qu'en fait, sous la placidité, sous l'impavidité d'apparence, il y a en fait un homme qui boue et qui met un coup de roue, simplement parce que on a freiné un petit peu trop devant lui.
Adrien, on va clore ce débat-là, parce que c'est pas le plus intéressant, mais il fallait bien y revenir avec une semaine de recul. Effectivement, on a bien compris que les deux garçons, qui pourtant il y a pas très longtemps se félicitaient mutuellement, se congratulaient des bons résultats, c'est la guerre maintenant, Adrien, jusqu'au bout de la saison. Alors espérons qu'elle va rester dans un domaine sportif, on va dire ça, parce que vraiment les ragots de couloir et de paddock, ça nous intéresse moyennement. T'es d'accord avec ça?
Oui, complètement d'accord, Jean-Luc. Ça souligne juste le fait que la bataille se fait de plus en plus dure, et elle se fera de plus en plus dure entre les deux pilotes. Et la bataille se fait autant sur la piste qu'en dehors. Malheureusement ou heureusement, un titre de champion du monde se construit et se gagne. On essaye de tout faire, tout simplement. Et c'est pareil pour Sébastien Vettel. Quand Lewis Hamilton dit qu'on reconnaît maintenant la vraie nature que Sébastien Vettel, il est 4 fois champion du monde, Sébastien Vettel. Et il n'aurait pas été 4 fois champion du monde s'il n'avait pas ce caractère-là aussi. Donc ça souligne vraiment tout ça. Et puis pour nous, c'est très intéressant, parce que justement, c'est ça qu'on veut voir. Et on va voir les deux se battre de plus en plus ardemment.
Et oui, puis quelles belles écuries que les écuries Mercedes et Ferrari. Tu voulais rajouter parce que effectivement, ça peut avoir encore des conséquences.
On n'en parle pas uniquement pour le plaisir ou pour vous rappeler au bon souvenir de ce Grand Prix fabuleux. C'est dans l'actualité, l'accrochage entre Vettel et Hamilton. Parce que mercredi, la FIA a annoncé, comme elle le fait parfois, qu'elle allait réexaminer l'incident et éventuellement prendre de nouvelles sanctions. Des sanctions qui pourraient être annoncées demain. En tout cas, ça sera annoncé avant le Grand Prix d'Autriche dimanche prochain. Alors comment ça va se passer? Il y a un tribunal international de la FIA, c'est un vrai nom, c'est pas nous qui l'appelons comme ça, c'est pas non plus la Cour de la Haye ou la Cour européenne, c'est pour juger de cas un petit peu moins graves quand même. 36 juges indépendants qui vont se réunir et qui vont donc avoir le temps de revoir les images bien au ralenti, et sans doute peut-être une nouvelle sanction pour Sébastien Vettel. Alors dans le meilleur des cas pour lui, il est blanchi et on considère que son stop and go
était déjà suffisamment pénalisé.
Ça lui a fait perdre la course, c'est important. Sinon, on pourrait aller vers une amende, vers une pénalité de quelques places sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche. On pourrait l'exclure a posteriori du Grand Prix de Bakou. C'était d'ailleurs visiblement une décision qu'ont hésité à prendre les commissaires sportifs au moment du Grand Prix. Donc peut-être qu'on pourrait l'en exclure. Si jamais on devait l'en exclure, il perdrait évidemment les 12 points récoltés là-bas. Et il n'aurait plus que 2 points d'avance au classement général provisoire du championnat du monde. Ça changerait tout. Et puis la dernière hypothèse, qui celle-là est assez hautement improbable, c'est la suspension d'un Grand Prix. Le dernier à avoir purgé une suspension, c'était Romain Grosjean. Vous savez que les pilotes ont un permis à points qui court sur une année, c'est-à-dire du Grand Prix d'Azerbaïdjan jusqu'au prochain Grand Prix d'Azerbaïdjan. Sébastien Vettel, il n'a plus que 3 points sur ce permis, on en retire à chaque accrochage. Si jamais il devait perdre ses 3 derniers points, il serait automatiquement suspendu pour un Grand Prix. Donc ça peut encore avoir des conséquences importantes sur la suite de cette saison.
Et ça perturberait évidemment la suite de la saison et cet affrontement sportif que l'on attend, nous, sur les pistes. Bon, espérons que la FIA et le tribunal international fera preuve de logique et de mesure. Et encore une fois, on cherche pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Mais on veut juste que ces garçons gardent la tête froide, si c'est possible, et qu'ils s'affrontent sur la piste. Allez, on en revient. Tiens, il y a eu un événement qui était très sympa cette semaine, puisque c'était la réaffirmation, évidemment, du Grand Prix de France. On avait la date, donc ce sera au mois de juin, ce sera le 26 juin 2018. Donc ce sera un Grand Prix qu'on attend tous, évidemment, ici en France. Et Christian Estrosi était présent avec Gilles Dufaigneux et Esteban Ocon. Alors on en vient justement au pilote français. On l'a vu, Adrien, remonter comme une pendule, lui aussi, et on va pas, encore une fois, ne faire que de la polémique dans cette émission, c'est pas ce que je veux, mais on sait que l'opposition avec son coéquipier, voilà, Sergio Pérez, c'est pas forcément le bon, a été animé au Canada, et là également, en tout cas, Ocon a monté d'un ton, Adrien.
Ah oui, Esteban Ocon qui va forcément met de plus en plus la pression d'un point de vue de la performance par rapport à Sergio Pérez qui pour l'instant était quand même un tout petit peu devant le Français depuis Montréal. Clairement, il y a eu il y a un antécédent et la moutarde est montée un peu et puis tout simplement ce qui devait arriver arriva. Je ne vais pas donner la faute à l'un ou à l'autre. Il y a eu deux incidents de course qui se sont suivis, un virage après l'autre, et malheureusement, les deux Force India en sont sortis bien pénalisés. Heureusement pour Esteban Ocon, il y a eu une neutralisation et il a pu revenir en course et marquer ensuite des gros points, se faire en tout cas à moitié pardonner. Et puis pour Sergio Pérez, on le connaît très rugueux. Et voilà, il va falloir, je pense, chez Force India trouver des solutions et essayer d'apaiser tout ça parce que au final, ils ont perdu des gros points au niveau du championnat des constructeurs.
Alors, on va l'écouter donc Esteban Ocon qui était présent, je vous l'ai dit, lors de cette présentation à la demande donc du comité d'organisation, on va dire ça comme ça, emmené par Christian Estrosi et Gilles Dufaigneux. C'était à Paris et c'est bien sûr au micro de Louis Hamard. Il parle de l'ensemble de sa saison jusque là.
J'ai eu une très grosse progression depuis le début de l'année en Australie. Je me sens de mieux en mieux avec la voiture, mieux en mieux avec l'équipe, ce qui est vraiment bien. Donc voilà, je suis plutôt content de ça. L'équipe me fait vraiment me sentir en fait à l'aise et je le ressens course après course. Quoi, je me sens de mieux en mieux. J'adore ce que je fais. J'ai le sourire tout le temps. Et voilà, quand on va arriver sur des circuits que je vais connaître avec plus d'expérience, ça sera une bonne chose et je vais être encore plus performant là-bas.
On l'a senti, Louis, un peu taille patron, hein, Esteban Ocon. Il était content d'être là pour confirmer évidemment l'arrivée du Grand Prix de France de Formule 1 au circuit Paul Ricard. Il était heureux de pouvoir vivre ça. Il rappelait ses souvenirs d'ailleurs au Grand Prix de France où l'avait emmené son papa il y a bien longtemps.
Oui, au Grand Prix de France à Manicourt où il avait vu Esteban Ocon, il nous le disait, gagner Michael Schumacher, voilà, qui était son idole. Hein. C'est lui qui lui a donné en partie envie de faire de la course automobile. Donc c'est vrai que c'était un moment particulier pour lui. Plus globalement, c'est vrai, il s'affirme, Esteban Ocon, il a les épaules qui se dégagent, il a le sourire toujours le plus ouvert, il est toujours très charmant, affable quand il répond aux journalistes, même dans des conditions qui sont pas les meilleures. Il revenait tout juste d'Azerbaïdjan, absolument, il devait repartir ensuite pour voir un peu sa famille avant de filer à l'usine à Silverstone pour réétudier évidemment les données du précédent Grand Prix avec son écurie Force India. Donc c'est vraiment, il est en train de s'affirmer et puis on attendait son affirmation en piste. Sur les résultats, il n'y avait pas de problème, mais simplement
on
fallait
attendait
aussi
ce moment où il allait revenir au niveau de Sergio Pérez et
lui envoyer un message. Et parce qu'en fait, il est revenu à son niveau quasiment au Canada. Oui. Sauf qu'au Canada, il y a eu l'incident dont on a déjà beaucoup parlé, où Pérez ne l'a pas laissé passer et il fallait lui montrer que s'il voulait l'attaquer, il pouvait l'attaquer. Bon, peut-être qu'il y a eu trop de dégâts pour que le message soit passé clairement, mais en tout cas, le message est envoyé. Juste un petit mot pour revenir une dernière fois sur cet incident. Les commissaires de course n'ont pas décidé d'ouvrir une investigation sur cette histoire-là. Oui. Ça veut dire que d'une certaine manière, Esteban Ocon est à l'aise par rapport
à
ça.
Bien sûr. Oui, je crois que c'est important de le souligner. On arrive surtout sur des tracés qu'il connaît mieux, Adrien, et ça tu le sais aussi mieux que personne en tant que pilote. Quand même, même si ces garçons ont une capacité d'adaptation formidable, quand on connaît bien le circuit, c'est évidemment un avantage, hein, c'est ce que tu penses?
C'est clairement un avantage, Jean-Luc. Et puis quand on entend Esteban parler à vos micros, il est heureux. Il est vraiment heureux d'être là et il prend du plaisir. Et c'est ça le plus important pour un pilote. Et la performance témoigne de cela. C'est-à-dire que vraiment, il arrive à tirer la quintessence de son potentiel et ça va être de mieux en mieux en arrivant sur des circuits qu'il connaît, sur lesquels il a roulé dans toutes les catégories qui mènent à la Formule 1 et où il a gagné des courses d'ailleurs. Ça va être, je pense, encore plus facile entre guillemets pour lui de pouvoir devancer le plus souvent possible Sergio Pérez. Et maintenant, c'est vrai, tu le disais, Louis, il est en train peut-être de prendre un ascendant psychologique sur Sergio Pérez parce que, encore une fois, c'était un incident de course à Bakou. Il n'a pas été pénalisé et quelque part, Pérez, par rapport à son équipe n'est pas forcément en position de force. Donc c'est très positif pour le Français et on a hâte de voir ce qu'il va faire sur le circuit européen.
Eh oui, on a hâte effectivement de voir ce qu'il va faire. Alors Louis Amar, bien sûr, a posé la question à Esteban Ocon de savoir justement si l'amorce de ces Grands Prix européens, de ces circuits qu'il connaît mieux, était un avantage pour lui. On l'écoute.
C'est des circuits que j'ai roulé toute ma carrière quand j'étais petit. Du coup, non, je vais partir à armes égales pour la première fois avec les autres. À un moment, je pense, où aussi ma performance sera bonne, où j'ai pris beaucoup d'expérience en début de l'année. C'est clair que quand on arrive et qu'on connaît déjà la piste, on n'a pas en fait à rattraper le temps perdu. Et ça change vraiment la construction du week-end. Et à la fin, il manque toujours un petit quelque chose d'expérience qu'on n'a pas eu de l'année d'avant. Et d'avoir un circuit qu'on connaît, bah, ça change la vie.
Ça change la vie, effectivement, et ça va changer la vie aussi pour d'autres pilotes dans d'autres disciplines, notamment le WRC. On va retrouver, et on va faire un petit break dans la F1, si vous voulez bien, messieurs. On va retrouver Eric Bellegarde, qui est l'envoyé spécial d'Auto Hebdo et qui veut bien faire le point sur ce rallye de Pologne qui vient juste de se terminer. Bonjour, Eric.
Bonjour, Jean-Luc. Bonjour à tous. Le rallye vient en effet de se terminer sur une victoire de Thierry Neuville, c'est sa troisième victoire cette année à l'issue d'un duel haletant avec Ott Tanak. L'Estonien était passé en tête ce matin pour une seconde suite dans la première spéciale, mais il est hélas sorti de la route dès la spéciale suivante.
Eh oui, il y a une pression terrible, hein, effectivement. Ott Tanak était le pilote le plus rapide des hommes de chez Ford. On va y venir après et parler évidemment de Seb Ogier. On peut dire que c'est un triomphe complet pour Hyundai, là, qui place évidemment deux de leurs voitures sur le podium, Eric.
En effet, c'est une excellente opération pour Hyundai au championnat constructeur. C'est leur premier doublé depuis le rallye d'Allemagne 2014. Et c'est aussi une excellente opération pour Thierry Neuville, puisque le Belge reprend 7 points à Sébastien Ogier et revient à seulement 11 points au championnat.
Alors Tanak sauve quand même une place sur le podium, hein. C'est bien ça, avec l'erreur que tu as soulignée il y a un instant. Il perd la deuxième place, mais il parvient à conserver la troisième quand même.
Non, malheureusement, Tanak a été contraint à l'abandon.
D'accord.
Au terme de la deuxième spéciale du jour, la voiture étant trop endommagée à l'avant. Et du coup, c'est Sébastien Ogier qui finit troisième sur le podium, qui limite plutôt bien les dégâts à l'issue d'un rallye plutôt difficile pour lui. Il a notamment été victime de deux crevaisons hier avant de se faire également un tête-à-queue. Et puis globalement, Sébastien reconnaissait être un peu moins à l'aise sur ce rallye où c'est la prise de risque qui fait la différence.
Bien sûr, on y va carrément, il n'était pas avantagé, c'est les fameuses positions lors de la première journée. On a bien vu qu'il payait l'addition avec des pistes qui étaient, je crois, très glissantes, très boueuses.
En effet, on a eu pendant 3 jours des conditions dantesques ici en Pologne. Mais on ne peut pas dire que la position soit la seule responsable de la performance de Sébastien, puisque le premier jour, le matin, sa position était plutôt avantageuse avant de devenir désavantageuse l'après-midi venu, puisqu'il était en premier sur la route, il arrivait en premier sur des rails remplis d'eau, il devait vider les flaques pour les concurrents suivants. Donc en effet, l'après-midi venu, il a pâti de sa première position sur la route, mais il disait lui-même qu'il n'arrive pas à évoluer au niveau de son équipe Tanak, particulièrement en verve ce week-end.
Ouais, oui, c'est ce qu'on a vu, effectivement, c'était lui l'homme de pointe de l'équipe Ford. C'est vrai qu'il monte en puissance aussi, hein, Tanak. Est-ce qu'on peut dire qu'Eden Paddon, qui avait connu un début de saison très difficile, hein, notamment avec cet accident au Monte-Carlo, lui aussi a retrouvé là de la performance? Il était un petit peu en retrait, on a le sentiment, dans la première partie de la saison.
En effet, Eden Paddon a connu un début de saison particulièrement difficile avec l'accident que vous mentionniez au Monte-Carlo. Il a mis du temps à retrouver ses marques. Il a aussi entre-temps changé de copilote. Mais depuis le Portugal, la Sardaigne également, les temps commençaient à revenir. Mais il n'avait pas encore concrétisé. Cette fois-ci, on peut dire effectivement que cette deuxième place va lui faire du bien.
Ok, je ne sais pas si tu as eu le temps de faire les comptes au championnat, Eric Bellegarde, donc envoyé spécial d'Auto Hebdo sur le terrain, mais on sait que normalement, avec peut-être cette troisième place, Seb Ogier parvient à ménager encore une avance.
Oui, Sébastien conserve les commandes du championnat, d'autant plus qu'il a terminé deuxième de la Power Stage, donc la dernière spéciale du rallye qui donne lieu à une attribution de points supplémentaires. Donc Sébastien conserve les rênes du championnat avec 11 points d'avance sur Thierry Neuville. Ces deux hommes se révèlent aujourd'hui comme les deux principaux candidats au titre, puisque derrière, Latvala et Tanak commencent à a davantage accusé le coup.
Oui, oui, clairement, ça va être le duel. On s'y attendait un petit peu, hein, comme Amérique, entre ces deux-là. On savait que ça devait se terminer comme ça. Et on a le sentiment aussi, peut-être, que les Hyundai sont, malgré tout, légèrement, la Hyundai de Neuville, légèrement supérieure à la Ford dont dispose Seb Ogier. J'ai raison ou pas?
En effet, on a vu depuis le début de l'année que la Hyundai est compétitive sur tous les terrains du championnat. Non pas que la Ford ne le soit pas, mais on sait aussi que la Hyundai est construite par un constructeur officiellement engagé, tandis que la Ford de Sébastien Ogier est alignée directement par l'équipe britannique M Sport, qui est aussi compétitive soit-elle, reste une équipe privée qui ne bénéficie pas des mêmes soutiens que peut avoir un constructeur.
Alors, ça c'était la Pologne, et on sait qu'il y a des changements effectivement d'adhérence, de cadre. Où va-t-on se retrouver? C'est directement la Finlande, hein, je crois, et c'est de la terre également.
En effet, le prochain rendez-vous du championnat, c'est fin juillet, sur le rallye de Finlande. Un rallye évidemment prisé par les Nordiques, par les Scandinaves, qui sont toujours très à l'aise. On peut légitimement penser, que Ott Tänak sera de nouveau très en vert, mais aussi Jari-Matti Latvala, pilote de Toyota qui sera sur ses terres, et bien d'autres encore.
Merci beaucoup, c'est très sympa. Merci Eric Bellegarde, envoyé spécial d'Auto Hebdo sur ce rallye de Pologne, sur le championnat du monde des rallyes. Allez, on va se quitter, mais c'est très bref, je vous rassure, parce qu'avec Louis Amar et Adrien Tambay, on a encore plein de choses à vous dire, notamment sur la suite de la saison de Formule 1. Vous êtes dans Motors, vous y restez.
RMC Motors avec Motors CV. RMC jusqu'à 14h. Motors, Jean Le Croix.
Et vous le savez bien que c'est un plaisir de vous retrouver tous les dimanches entre 13h et 14h pour parler de sport mécanique sur RMC, la seule émission consacrée au sport mécanique hebdomadaire, et on s'en régale. On a parlé de F1 et on va continuer à en parler avec Louis Amar et Adrien Tambay, puis on a parlé il y a un instant pour vous donner juste à l'instant les résultats donc du WRC du rallye de Pologne remporté donc par Thierry Neuville. Allez Louis, on y revient, et on a ouvert la page de l'avenir avec Esteban Ocon, les Grands Prix européens, on l'a entendu nous en parler. Alors effectivement, la suite de la saison va peut-être pour lui, je ne vais pas dire être plus facile, mais si sa monoplace qui est à l'aise un peu partout finalement le lui permet, on peut le voir cette fois devancer vraiment son équipier, c'est le but.
Oui, ce qui nous explique Esteban Ocon, c'est que quand on arrive sur un circuit qu'on connaît déjà, le vendredi n'est pas une journée pour rien, n'est pas une journée pour apprendre. On peut tout de suite rentrer dans des réglages, affiner quelque chose, tester également des réglages sur les monoplaces. Et ça, évidemment, ça va l'aider. Alors, en Autriche, par exemple, il avait pas eu de très bons résultats quand il avait couru il y a 2 ans en GP3. Oui. Il avait pas fait de podium, il avait pas gagné la course. Pourtant, il avait été sacré champion de GP3 cette année-là. Mais il connaît la piste, il commence à apprivoiser de mieux en mieux sa monoplace, qui a en plus reçu de petites évolutions, je crois, avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, et peut-être de nouvelles avant le Grand Prix d'Autriche. Donc il y aura vraiment un coup à jouer pour lui, d'autant plus que maintenant il est en quelque sorte libéré des appréhensions ou de la timidité qu'il pouvait avoir vis-à-vis de son équipier. Maintenant ils sont armes égales, sur un pied d'égalité, et c'est le moment pour montrer de quoi il est capable, sachant qu'il reste sur quand même deux très belles performances, puisqu'il a terminé deux fois sixième, Esteban Ocon, et la seule fois où il a marqué de points depuis le début de saison, c'était à Monaco, circuit qu'il découvrait et où les pilotes ont mis la petite erreur.
Voilà, il l'a dit, il l'avoue honnêtement, j'ai fait une petite erreur aux essais. Adrien, psychologiquement, pour un pilote monté en puissance de cette manière-là, là aussi, c'est ce qu'on peut espérer naturellement de mieux. Il est confiant dans ses qualités, on va dire ça comme ça.
Il est vraiment monté en puissance, Esteban Ocon, au début de la saison, d'un point de vue de la performance, il était un peu en retrait par rapport à Sergio Pérez, mais il s'est pas énervé, il a pris les choses step comme il aime le dire, et tout simplement sans faire d'erreur à finir tous les grands prix presque toujours dans les points. Voilà, c'est un début de saison parfait. Maintenant, il va falloir passer cette petite épreuve des frictions avec son coéquipier, mais je n'ai aucun doute, il a le bon état d'esprit, et puis sur les circuits de l'européen, ça va le faire pour Esteban.
Et oui, puis comme le soulignait Louis il y a un instant, effectivement, il n'y a qu'un Grand Prix où il n'a pas marqué, mais il a appris. Hein. C'est Monaco, évidemment, c'était le Grand Prix où il ne faut pas commettre d'erreur dans tout le déroulé. Alors Louis, on en vient au Grand Prix à venir. Le prochain, c'est l'Autriche, Spielberg. Alors attention à la rencontre avec les animaux, parce que là aussi, on voit des biches, notamment le vendredi matin qui saute au milieu de la piste. Mais à part ça, c'est un tracé, c'est une sorte de cirque, hein, de théâtre un petit peu à flanc de colline.
Exactement, à flanc de montagne, c'est magnifique. Hein, ce tracé du Red Bull Ring, comme il s'appelle, est vraiment superbe, un peu paumé dans la campagne autrichienne. C'est un tracé sur lequel les Red Bull ont quand même intérêt à briller. Oui. Historiquement, c'est un Grand Prix qui doit leur réussir. Quand on voit les soucis qu'a connu Max Verstappen sur les dernières courses, peut-être qu'il aura sans doute à cœur même là-bas devant son public, en tout cas le public de son écurie, de se rattraper.
4 abandons en 6 courses.
Exactement.
On le rappelle, c'est
énorme. 4 abandons en 6 courses, c'est pas de son fait en plus. C'est vraiment des coups de pas de bol, notamment au Canada et à Bakou, où il aurait pu espérer de belles choses. Et puis Daniel Ricciardo, lui, sera attendu pour confirmer sa victoire, évidemment qui était due aux événements de course, mais victoire quand même. Il a réussi à en profiter à Bakou il y a 15 jours.
Et puis
une semaine.
On va dériver sur une autre question, Adrien, tu me vois venir, c'est Lance Stroll, évidemment, sur lequel il y a un débat aussi, puisqu'il est critiqué malgré tout par certains, malgré les deux beaux résultats successifs qu'il vient d'enregistrer. On le rappelle, 9e effectivement lors de son Grand Prix national au Canada, et puis là, il tenait la 2e place jusqu'à 1 mètre de l'arrivée. Hein. Il n'a pas fait de faute sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui est extrêmement piégeux.
Ah, je pense que tout simplement son résultat canadien lui a fait beaucoup de bien, débloquer son compteur, marquer ses premiers points en Formule 1. Il était beaucoup plus léger, je pense, un beau poids sur les épaules en moins pour Lance Stroll. Et puis là, tout simplement, il n'a pas fait d'erreur. Il est passé à travers les gouttes, les incidents tout au long de cette course. Et puis il a conduit parfaitement. Honnêtement, c'était facile à la fin de faire une erreur. On a vu pas mal sur ce circuit pendant tout le week-end. Et il a conduit parfaitement. C'est un peu dommage qu'il perde cette place au détriment de Valtteri Bottas sur la ligne. Mais il finit sur le podium, c'est génial pour lui, parce qu'il a vraiment été sous pression. Il l'est toujours, mais encore une fois, 19 ans, il vient de la F3, même si on le répète, il a tous les outils en sa possession, pour travailler et puis même faire des séances d'essai en plus des autres entre les courses. Il faut lui laisser un peu de temps, il a 19 ans et voilà, faut pas lui jeter la pierre trop vite.
Et oui, il n'a que 8 Grands Prix au compteur, hein. C'est quand même pas beaucoup. Alors justement, son équipier, Louis Felipe Massa, lui, il en a 258 au compteur. Et alors là, c'est les papys font de la résistance, c'est un peu ça ?
C'est un peu ça, c'est le Charles Aznavour du sport automobile, Felipe Massa, l'homme qui ne prend jamais sa retraite.
Et
alors,
non,
il est parti pendant 50 jours,
ouais.
50 jours sans Felipe Massa, et puis finalement, avec le départ de Valtteri Bottas,
on peut pas s'en passer.
Trop de charisme.
Évidemment.
Avec bien sûr.
C'est un type bien
et c'est un bon pilote. Et donc avec le départ de Valtteri Bottas chez Mercedes, Williams l'a rappelé un peu en catastrophe. Et puis il s'y sent bien, Felipe Massa, dans cette écurie.
Il réalise de très belles performances.
Il réalise de belles performances. 10e du championnat, 20 points. Quelques problèmes un petit peu à l'instar de Max Verstappen, mais qui ne sont pas de son fait. Des problèmes de malchance contre lesquels il lutte, notamment encore en Azerbaïdjan, alors qu'il avait une belle possibilité
devant lui. Il avait une belle chance.
Il pouvait revenir sur le podium pour la première fois depuis septembre 2015 et le Grand Prix d'Italie. Et donc il a donné une interview au site officiel de la F1 où il dit que tout se passe bien, qu'il se sent toujours compétitif, qu'il aime la voiture qu'il pilote, qu'il aime son écurie, qu'il aime les nouveaux règlements. Si ça, c'est pas un appel du pied.
Ouais, effectivement. Adrien, c'est l'équipe idéale, Williams, actuellement, avec le jeune fougueux, mais qui apprend et qui est en progression. Et puis, le vieux sage, on va tout faire, à ton avis, pour essayer de le conserver. Massa chez Williams?
Bah, je crois en tout cas que c'était indispensable de le rappeler de sa retraite, Felipe Massa, avec Lance Stroll qui arrive tout jeune, qui techniquement n'a pas le bagage du Brésilien. C'était important pour le développement de la voiture avec cette nouvelle réglementation, ces voitures qui sont quand même bien différentes de celles des années passées, tout simplement. C'est très important d'avoir rappelé Felipe Massa. Et puis le Brésilien, il a un style de pilotage, je pense, qui convient bien à ces voitures. C'est un vrai attaquant. On se souviendra de ses débuts chez Sauber, où on le voyait toujours vraiment à la limite. Et c'est vraiment un pilote qui attaque. Donc après, oui, il y a le jeune et puis le moins jeune dans l'équipe, et ça fait au final je pense une saine émulation, parce que on connaît aussi la relation que Felipe Massa a avec le papa de Lance Stroll. Je pense qu'il couve assez son coéquipier et qu'il l'aide à s'améliorer. Il y a moins de rivalité qu'avec deux pilotes du même âge. Donc c'est plutôt cohérent comme équipage, effectivement, chez Williams.
Oui, c'est important, effectivement, d'être coaché et cornaqué quelque part par un pilote d'expérience. Et Felipe Massa en a, de même que de la générosité, parce que ça aussi, c'est important, effectivement. Tu as cité Jenson Button tout à l'heure, et c'est vrai que Button aurait pu également, dans une équipe, avoir son rôle à jouer. Tiens, d'ailleurs, deux petites pistes à lancer. Alors une, je sais que c'est un fake, comme dit Toto Wolff lui-même. Le bruit selon lequel, Mercedes ne resterait durer pas trop longtemps. Alors c'est Eddie Jordan hein, qui a lancé ça, qui est effectivement qui est consultant, vous le savez, pour une chaîne britannique. Et Eddie Jordan qui a pas sa langue dans sa poche. Alors est-ce qu'il a des comptes à régler ou est-ce qu'il veut déstabiliser l'équipe Mercedes? Bah,
Toto Wolff, il a la réponse en tout cas. Ouais. Il a renvoyé Eddie Jordan dans ses 22 bien sévèrement en disant j'adore discuter avec Eddie Jordan, mais dès qu'il a l'antenne, il dit n'importe quoi. Donc
ça c'est fait.
Donc pas du tout, en tout cas selon Toto Wolff évidemment, de risque ou de suspicion de départ de Mercedes en F1, ça concerne quand même 1500 personnes. Donc c'est pour aussi qu'il était colère Toto Wolff. C'est parce qu'il dit là, vous vous adressez à l'avenir de 1500 personnes qui sont un peu démunies quand elles lisent ça dans la presse ou qu'elles l'entendent à la télévision.
Bien sûr.
Donc il a tenu à balayer cette rumeur d'un revers de main.
Oui, et puis on sait que les contrats courts, en tout cas pour Lewis Hamilton pour le moment, pour Valtteri Bottas, on sait bien que ce contrat est annuel, mais qu'il devrait logiquement être conduit relativement rapidement. Un autre sujet qui nous tient à cœur, Adrien, bien sûr, c'est celui de Fernando Alonso. Alors on sait qu'on se rapproche de l'échéance. Normalement, c'est juste à la rentrée, hein, puisqu'il y aura un break après le Grand Prix de Hongrie. Normalement, McLaren Honda, on va toujours l'appeler comme ça, doit donner des garanties à Fernando Alonso pour qu'il reste. Alors là aussi, il y a beaucoup de bruit qui circule, hein, effectivement, Adrien, pour le moment. Rien de bien nouveau, en fait, hormis le fait qu'un pilote comme Fernando, qui court toujours après son troisième titre de champion du monde, ne peut pas rester sur le bas-côté, Adrien.
Non, ça c'est clair. C'est ça fait trop longtemps que Fernando Alonso ne se bat plus pour les podiums et même si il essaye tous les week-ends, c'est vraiment très compliqué. Une McLaren qui est très efficace au niveau de son châssis et de son aéro, c'est vraiment le moteur qui pêche par sa fiabilité puis par sa performance, 30 km/h de moins parfois que ses concurrents dans une ligne droite. Enfin, c'est quelque chose d'assez énorme et de très frustrant pour un pilote du niveau de Fernando Alonso. Et je pense qu'il va falloir une décision très rapide du côté de chez McLaren. Je ne sais pas si cette décision vient aussi de chez Honda ou si c'est juste un changement de direction au niveau du motoriste de la part de McLaren que Fernando Alonso attend, mais en tout cas ça va être intéressant de voir ce que les Anglais vont faire et si ils vont revenir avec Mercedes ou pas. Mais c'est pas si simple que ça, je pense, d'un point de vue contractuel.
Absolument, et c'est le dernier point qu'on va aborder dans cette page F1, cette belle page F1 avec vous deux, messieurs. Louis, on a vu que chez McLaren, on a changé, ça y est, Ron Dennis est sorti du jeu. Il a vendu ses parts à 70 ans, Ron Dennis, qui va se tourner vers d'autres activités personnelles et notamment dans l'humanitaire, enfin, etc. Et là, il a passé la main, clairement, c'est un changement de cap.
Voilà, il avait déjà été mis hors jeu à la fin de la saison dernière, sur le banc. Et maintenant, son départ est total, si on peut dire. Il a effectivement vendu ses parts et il n'est plus du tout intégré à la structure McLaren. Il y a une piste aussi, parce qu'on parle beaucoup de McLaren Mercedes, qui est un attelage qu'on a bien connu.
Oui.
Il y a une autre piste qui serait une nouveauté totale, c'est McLaren Renault. Et il n'est pas du tout impossible d'imaginer un motoriste français, ça aussi, ça serait quand même une sacrée revanche sur l'histoire. Clair. Un motoriste français équipé une écurie anglaise. Et puis juste pour terminer au sujet de Honda, on souhaite bon courage à Sauber l'année prochaine, qui a signé un beau contrat avec Honda.
Oui, c'est vrai, tu as raison, on peut faire du mot. Alors, je rappellerai juste, Adrien, mais vous n'étiez pas né, mais moi je m'en souviens, c'est que McLaren a été motorisé par Peugeot. Et c'était il y a très longtemps et c'était une année intermédiaire. C'était pas la plus belle de l'équipe McLaren. Hein. Je fais pas outrage à mes amis de chez Peugeot, mais là c'est vrai que c'était une année un petit peu difficile, effectivement, de transition. On va dire ça comme ça. Mais Adrien, c'était un plaisir de t'avoir dans cette page F1. On va se retrouver évidemment pour le Grand Prix d'Autriche à Spielberg le week-end prochain. Tu peux sortir tes chaussures de montagne et ton bonnet. Il fait frais le matin.
Ouais, mais c'est un circuit top avec beaucoup de dénivelé, des virages vraiment rapides, toujours très serrés là-bas et une longue ligne droite avec une belle utilisation du DRS. On va avoir des beaux départs.
On va se régaler. Merci Adrien. Louis, c'est pareil, tu vas partir là-bas dans les alpages.
Exactement.
Hein, tu vas respirer l'air sain, on peut dire, effectivement.
Pour une fois.
Merci beaucoup, Louis Hamard. Merci. On se retrouve évidemment le week-end prochain pour le Grand Prix. Ce sera le 9e, de la saison. Le Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix d'Autriche. Nous sommes dans Motors et on va continuer, vous le savez. On va notamment parler moto dans un instant avec Benoît Boutron. Vous restez avec nous.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Jean Lecroix.
Et voilà, après la Formule 1, après le rallye de championnat du monde en Pologne, je vous l'ai dit, on passe à un autre type de rallye de longue haleine. Celui-là, c'est le Silkway Rallye. On va en parler tout de suite avec son co-organisateur, co-patron, Frédéric Lequin. Salut Fred.
Salut Jean-Luc. Bonjour à tous.
Je te remercie beaucoup d'être avec moi en direct dans Motors aujourd'hui. Alors, on va parler de cette belle épreuve qui va s'élancer le 7 juillet prochain de Moscou, avec un parcours absolument mythique, hein, puisque le nom du rallye, d'ailleurs, le laisse à penser, c'est la route de la soie.
Oui, c'est ça. Donc, dans un peu moins d'une semaine, maintenant, on va partir de la Place Rouge, donc un endroit qui est aussi fabuleux, mythique, pour les concurrents qui participent au rallye. Et on va partir pour 2 semaines de compétition. Donc on va quitter Moscou le 7 juillet avec une première spéciale. On aura 3 étapes en Russie, 6 au Kazakhstan et 6 en Chine pour arriver dans l'ancienne capitale de la République populaire de Chine. On va arriver à Xi'an le 22 juillet. Donc ouais, une très très belle aventure.
Une très très belle aventure, effectivement, avec des décors formidables. Alors on pourra voir tous les jours sur Motorsport TV avec un programme spécial d'une demi-heure, effectivement, puisqu'on va suivre de très très près ce rallye dans lequel les grandes équipes sont engagées. Alors traditionnellement, on le sait, notamment les équipes camions, hein, il y a une bataille de ces monstres du désert.
Oui, nous on a la particularité, comme toutes les épreuves de rallye raid, d'accueillir la catégorie auto et la catégorie camion. Mais c'est vrai que le Silkway s'est imposé depuis assez longtemps comme étant une référence dans la course camion. Et on a cette année un plateau d'exception avec à peu près 25 camions et les meilleurs de la catégorie. Donc les meilleurs, c'est qui? C'est l'équipe bien sûr russe. Kamaz, qui est multiple vainqueur du Dakar et du Silkway également, l'équipe Iveco, l'équipe Maz, l'équipe Tatra. Enfin, il y a vraiment du beau monde. C'est très très impressionnant. Moi, je peux t'assurer, Jean-Luc, que c'est vraiment la compétition de très très haut niveau. Ça roule extrêmement vite, aussi en camion. Et sur le plateau auto, on est ravis d'accueillir pour la deuxième année consécutive, bien sûr, l'équipe Peugeot Sport, avec les vainqueurs de l'année passée, Cyril Després et David Castera, et bien sûr Sébastien Loeb également, avec Daniel, son fidèle copilote, et Stéphane Péterancel, là aussi qu'on présente plus, monsieur Dakar, et qui aimerait bien, je crois, accrocher le Silkway à son palmarès.
Eh ben oui, il aimerait bien, effectivement. Il s'était illustré à moto il y a longtemps, hein, effectivement, dans le rallye, on lui rend hommage, qui était organisé par René Medge à moto. Donc je suis persuadé, tu as raison de le souligner, qu'avec ces Peugeot. Alors ces Peugeot, effectivement, 2 roues motrices, hein, qui a priori, effectivement, allez, on va y aller carrément, la victoire aura du mal à leur échapper, mais sait-on jamais. Et en tout cas, on va dire qu'on laisse libre cours au talent des pilotes, puisque tu le soulignais il y a un instant, Cyril Després s'était imposé pour la première fois sur 4 roues dans un grand rallye. Alors c'est vrai que Sébastien Loeb, on attend toujours sa première victoire à lui aussi, hein.
Alors écoute, moi Jean-Luc, moi je crois que sincèrement, ça peut être l'année de Sébastien Loeb.
Ouais.
Premièrement parce que ça fait maintenant quelques années qu'il roule en rallye raid. Il a réussi à acquérir de l'expérience. Je dirais aussi que le terrain du Silkway est un terrain qui lui correspond assez bien. Il a appris aussi à rouler sur des étendues qui sont beaucoup plus ouvertes que sur un Dakar. Il a aussi appris la navigation beaucoup, et en particulier avec Daniel Elena, qui a fait des progrès mais incroyables, considérables. Il va vraiment très vite. Moi, je peux vous assurer que quand je suis au-dessus avec l'hélico, avec mon pilote, parfois on se marre vraiment parce qu'on a du mal à les suivre. Non, mais vraiment, ça roule extrêmement vite. Ça peut être son année. Stéphane Péterancel reste redoutable.
Oui,
c'est un super.
Il est bon
client.
Partout. Il est bon partout.
Voilà, je rappelle que l'année dernière sur le Silkway, vous savez, il fait un double tonneau et la course ne s'arrête pas, mais en tout cas la victoire lui échappe comme ça. Mais sinon, il était parti pour gagner. Donc Stéphane, il est redoutable. Là aussi, c'est un super équipage avec Jean-Paul Cotteret. Et Cyril Després, faut pas oublier, c'est un ancien pilote moto qui s'est bien reconverti en voiture, qui a une très 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 bonne lecture du terrain. Il a un super coéquipier qui s'est imposé lui aussi comme un des meilleurs copilotes aujourd'hui, c'est David Castera.
Bien sûr, ancien motard, il faut le rappeler.
Ancien motard. Et c'est vrai, et tu vois Jean-Luc, je vais pas te raconter n'importe quoi, je crois qu'aujourd'hui le vrai suspense, il va se jouer entre les 3 Peugeot.
Oui,
et je dois rendre vraiment hommage à Bruno Famin, le patron de Peugeot Sport, qui donne pas de consignes de course.
Ouais, ça c'est bien.
Et qui, non mais vraiment quoi, et il joue le jeu, donc c'est top pour les médias. Évidemment, c'est top pour les médias, c'est top pour les téléspectateurs, pour nous aussi organisateurs, et on a vraiment 3 autos qui se battent tous les jours pour gagner les spéciales. Puis il faut pas oublier qu'il y a quand même Mini puis Toyota. Et puis
on a aussi
maintenant des constructeurs chinois qui arrivent avec des très très bons pilotes. Je pense notamment à Christian Lavieille. Christian aussi un ancien grand champion de moto et très bon pilote auto et qui peut jouer à podium sans aucun problème. Donc la course elle est très ouverte. Et bien sûr on va observer les Peugeot et ça risque de déménager, ouais, pas mal.
Ça va déménager, c'est clair. Merci beaucoup Frédéric Lequien.
Non, merci à toi.
Ah ben je t'en prie, c'est un plaisir et je rappelle qu'on verra tous les jours donc un programme spécial de mémoire, c'est à 22h30 tous les soirs sur Motorsport TV.
Oui, on a un très bon partenariat avec Motorsport TV, on est très très fiers de l'avoir. Et voilà, on va offrir un super spectacle tous les jours. Merci encore Jean-Luc.
C'est un plaisir et puis c'est l'aventure et cette fois c'est vers l'est, hein, c'est différent, c'est de Moscou à Xi'an. Voilà. Merci beaucoup Fred.
Merci beaucoup. À bientôt.
On enlève comme on dit toujours, on revient sur le bitume et quel bitume. Je vais pas dire qu'il est surchauffé. Bonjour Benoît Boutron.
Salut Jean-Luc.
Mais il est chaud quand même hein, parce que c'est le tourniquet du Sachsenring, on peut l'appeler comme ça.
Allez, superbe circuit hein. Circuit naturel avec du dénivelé, c'est fantastique hein,
comme virage à l'aveugle, cette plongée à droite là. Tiens, tu vas nous donner tout de suite le résultat des deux premiers Grands Prix en Moto 2 et Moto 3. Alors attends, je les ai pas loin non plus. Voilà, Joan Mir qui s'impose donc en Moto 3.
Et on a l'impression que le suspense est en train de mourir malheureusement dans ces catégories inférieures. Une victoire de Joan Mir qui a encore fait la différence dans les deux derniers tours. Impressionnant l'Espagnol cette saison, 19 ans. C'est sa 6e victoire dans sa carrière, la 5e cette saison. Effectivement, Joan Mir qui s'impose en Moto 3. Et c'est une belle opération puisque son principal poursuivant, l'Espagnol Aaron Canet, a lui chuté. Donc c'est inquiétant pour la suite du championnat du monde. Il y a désormais 37 points d'avance sur Romano Fenati, victoire de Mir donc ce matin, qui a devancé l'Italien donc Fenati et l'Espagnol Marcos Ramirez. Mais plus trop de suspense malheureusement en Moto 3.
Il a un peu et cassé. Bon, attention, c'est de la moto, hein, on sait toujours
que
c'est
un peu.
Et juste un mot de Jules Danilo qui était remonté comme une balle. Je crois qu'il était parti 25, il est remonté 10 à un moment.
Exactement.
Et malheureusement,
il termine 14e. 14e. Il prend un point, mais la petite déception, c'est qu'il est doublé dans le dernier tour. Je sais pas si tu as vu ça. Il perd une place dans le dernier tour.
Il s'est fait taper d'ailleurs. Il était extrêmement
énervé d'ailleurs à l'arrivée de ce Grand Prix. Effectivement, Jules Danilo, c'est pas mal, une belle remontée. On souhaite la même à Zarco en MotoGP.
Faudrait
tout à l'heure,
qu'il se qualifie bien.
Mais c'est dommage pour Danilo. Ouais. C'est vrai qu'il aurait pu faire un petit peu mieux sur ce Grand Prix allemand.
Allez, on en vient au Moto 2 qui juste se termine pile au moment début de Motors traditionnellement. Et là aussi, il n'y a pas trop de surprises, on va dire.
Hein. Et oui, encore une victoire de Franco Morbidelli, c'est lui qui domine la catégorie, il a devancé Miguel Oliveira, il a lutté d'ailleurs avec le pilote portugais, on s'attendait à une grosse bataille entre Morbidelli, Marquez et Lutti, sauf que Marquez et Lutti ils ont chuté, ils n'ont pas terminé ce Grand Prix. Il s'est passé beaucoup de choses hein. On va reparler avec le MotoGP tout à l'heure.
On va reparler, on rappelle que les conditions météo étaient épouvantables.
Exactement,
pour les
qualifs. Il y a eu de la pluie, il y a eu du vent, les conditions qui étaient assez changeantes, un petit peu comme ce qui s'est passé à Assen aux Pays-Bas. Et puis faut dire ce qui est, les nerfs qu'on commence à être mis à rude épreuve, hein. C'est le dernier Grand Prix avant la trêve estivale, celui-là. Donc les pilotes sont fatigués et forcément ça se ressent un petit peu. Conditions compliquées en Moto2, mais nouvelle victoire de Morbidelli qui lui aussi compte 37 points d'avance au classement général. Ça se détache pour l'Italien en Moto2 et pour l'Espagnol Mir en Moto3.
Un petit mot de Fabio Quartararo, je crois que je l'ai vu 13e à un moment, tu sais où il termine
Alors j'ai pas le classement exact, mais il a terminé assez loin malheureusement.
Il était au port des points ou dans les points, voilà. Allez, on en vient à la présentation du MotoGP, évidemment. C'est ça qui nous intéresse le plus, soyons clairs. Alors, des problèmes aux essais, on y va tout de suite pour Johann Zarco qui partira malheureusement de très très loin.
Ouais, et plus globalement pour Yamaha, hein, tu as vu ça. Le meilleur, c'est l'Allemand finalement, c'est Jonas Folger. Il s'est classé 5e, mais effectivement, quelques soucis. Zarco, oui, on n'a pas trop compris. Ça a été compliqué dès la 3e séance d'essais libres. Et puis ensuite, en Q1, ça n'a pas été terrible du tout. Hein, il a fait 19e
temps.
Il n'est pas le premier Français sur la grille puisque Loris Baz, lui, sous la pluie,
une
belle perf hein, finalement puisqu'il partira 16e je crois. Loris Baz sur sa Ducati, c'est pas si mal. Petite déception pour Zarco, il était en pôle à Assen. Après, il a eu un Grand Prix un peu frustrant, évidemment, on a suivi ça ensemble.
Avec un mauvais choix stratégique, on l'a assumé chez Tech 3, en l'arrêtant pour prendre la machine équipée des pneus.
Il avait tenté le tout pour le tout.
Voilà.
Il sentait que la victoire lui échappait, et du coup, il a tenté le tout pour le tout.
On l'arrête, mais bon.
Bon, c'était une erreur de jeunesse, entre guillemets, puisque c'est un jeune pilote MotoGP, mais c'est vrai que cette qualif est un peu inquiétante. Il va tenter de faire une remontée fantastique. C'est possible sur ce circuit, c'est possible avec la machine qu'il a. Peut-être rentrer dans les points déjà, et puis ensuite, pourquoi pas envisager un top 10, voire voire un top 5.
Ouais, c'est ça possible. Va être compliqué de dépasser malgré tout, hein, parce que tu le disais, le circuit est tortueux, il est délicat.
Ouais.
Bon, alors parlons de ce qui se passe devant, parce qu'il y a un certain Marquez. Alors lui, normalement, c'est l'homme du Saxon Ring.
Ah non, mais est-ce que tu as vu la stat? C'est incroyable. Il est invaincu sur ce circuit depuis 2010, toutes catégories confondues. Il perd jamais en Allemagne, Marc Marquez, et il réalise la 8e pole consécutive. Hein. Tu vas me confirmer ça, mais c'est impressionnant pour Marc Marquez, effectivement, qui partira devant. Mais attention, il s'est passé quelque chose. Tu as vu ça en qualification. Il a touché Maverick Vinales dans un tour rapide. Et ça, ça a mis un petit peu de tension, on va dire la vérité, entre Honda et
Vous avez dit Hamilton Vettel.
Ça ressemble un peu à ça, puisque Vinales s'en est plaint et Marquez fait assez rare est allé s'excuser. Donc il est vraiment fautif sur le coup.
J'ai vu l'action. Je l'ai vu en direct. Oui, non, là,
en fait, il passe en virage alors que Vinales ne peut pas le voir arriver. Donc il y a un contact entre les deux et c'est uniquement la faute du pilote Honda. Marquez en tête devant Danilo Petrucci, l'Italien, qui se classe deuxième.
Lui, c'est quand même la belle histoire. Hein, Petrucci, qui normalement était considéré, enfin est toujours le troisième pilote de l'équipe. C'est pas un pilote officiel.
Et Petrucci qui sortait de la Q1. Ça, c'est assez rare aussi.
En
F1, c'est différent. Mais là, il sort de la Q1. Il termine dans les deux premiers temps de la Q1. Et il arrive à faire le deuxième temps sur la grille. C'est bien aussi pour Ducati, parce qu'il y a une petite déception, malheureusement. Le leader du championnat du monde, Dovizioso, partira seulement dixième. Ducati, qui a quand même placé Jorge Lorenzo à la sixième place. Bon, Lorenzo, on sait qu'il se bat, il bataille en qualif.
Lui, c'est très inégal. Hein. De temps en temps, il est perdu, littéralement, et parfois, il remonte. Enfin, pour le moment, c'est pas très concluant, hein, parce
je sais pas ce que t'en penses.
Est 8 au championnat avec 60 points.
Mais en fait, on a l'impression que en qualif, il arrive à peu près à s'en sortir, mais dès qu'il y a la course, dès qu'il est à la bagarre, malheureusement, il n'arrive pas à maîtriser sa Ducati et ça devient trop compliqué pour lui, quoi.
Ouais, on l'a vu pointer en tête quelques tours, tu t'en souviens, là, c'était sur le Mugello,
mais
ça n'a pas duré longtemps, puis après, il s'efface complètement. Alors, parlons justement de Maverick Vinales et Andrea Dovizioso, c'est les deux premiers du classement, quand même. Dovizioso, leader avec 115 points, Vinales, deuxième avec 111.
Partiront 10 et 11.
Et voilà, et on rappelle qu'il y a un certain Valentino Rossi, pas mal, il est troisième au championnat 108 avec cette victoire.
Exactement.
Après depuis un moment, cette victoire à Assen.
Il a gagné à Assen, ça faisait un an qu'il n'avait pas gagné, Valentino Rossi. D'ailleurs, il avait fini énervé contre Johann Zarco. Tu as vu, il y avait eu un contact.
Ouais.
Il a voulu faire comprendre qui était le patron, notamment chez Yamaha. Ça a été assez marrant, parce que Zarco l'a bien pris d'ailleurs. Je sais pas ce que tu as pensé de sa réaction, mais le Français a dit, bon, bah, s'il commence à réagir comme ça, c'est qu'il commence à me considérer.
C'est qu'il commence à me craindre.
voilà, c'est ça.
Ouais, je suis d'accord.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, Rossi est troisième du classement général. Il n'y a que 7 points d'écart entre lui et Dovizioso qui est leader. Donc, pourquoi pas Rossi, sur un gros coup cet après midi. Rossi qui lui partira 9e. Donc ils sont assez loin finalement les favoris. On vous a dit la première ligne, deuxième ligne. Il y a Crutchlow, Folger et Lorenzo donc. Et cette troisième ligne avec les deux frères Espargaro et Valentino Rossi. Ça peut promettre un peu de baston dès les premiers virages sur ce circuit d'Allemagne.
Absolument Benoît. Alors on rappelle quelque chose de très important, c'est qu'encore une fois les essais sont déroulés sous la pluie, notamment les essais qualif, c'était dans des conditions vraiment dantesques.
Exactement.
Même si les pilotes maintenant, alors l'adhérence des pneus c'est sidérant, ils prennent des angles ahurissants, mais là on est sur le sec, donc il faut adapter les réglages,
c'est ça.
Donc ça va être même au niveau du, c'est moins important qu'en F1, mais les freinages, la qualité, la température
en moto,
des disques,
c'est
carbone, voilà.
Entièrement différent, bien sûr. Et d'ailleurs, le warm-up a été dominé par Folger ce matin.
Voilà.
Et nouvelle frayeur pour Marquez, hein, qui était parti avec des...
Deux fois, même. Il est sorti de la piste.
Il est parti avec des pneus pluie, je crois. D'ailleurs, la piste était assez sèche, et c'est ce qui lui a porté préjudice à Marc Marquez. Mais on vous l'a dit, c'est le grand champion en Allemagne. Il enchaîne les victoires, donc a priori, on pourrait avoir une belle bagarre. Marquez, Petrucci, Pedrosa, la première ligne. Rappelons donc Zarco, qui partira malheureusement 19e, mais qui sera là, la bagarre, on n'en doute pas.
Oui, on n'en doute pas, effectivement. Et puis, tu parlais de Jorge Lorenzo il y a un instant. Bon, c'est vrai que c'est quand même un champion du monde. Hein.
Ouais.
On a du mal à le voir à ce niveau-là pour le moment. On ne comprend pas ce qui fonctionne pas. Alors, j'ai lu une de ses déclarations lors d'une séance d'essai. Il avait trouvé un truc, semble-t-il. Il disait, ça y est, je la sens mieux, ma machine.
Ouais.
Je peux aller un peu chercher la limite.
Plus. On rappelle les caractéristiques de Ducati. C'est une moto plus dure à piloter, mais qui va beaucoup plus vite. Il y a une meilleure pointe de vitesse sur les Ducati depuis le début de la saison.
C'est leur atout.
Et
c'est
il est en train de se casser les dents. On rappelle également qu'il est en train de tenter ce que Valentino Rossi n'a pas réussi. Être champion du monde au guidon d'une Ducati. C'est aussi un peu pour ça qu'il est parti, puisque c'était le grand rival de Rossi chez Yamaha. Mais pour l'instant, il vit une saison plus que galère. Effectivement,
ouais, ouais, il faut remonter à Casestoner hein, pour la victoire avec la Ducati. Ouais. Super, merci beaucoup.
Merci Jean-Luc. On va suivre ça dans Intégral Sport, évidemment.
Oui, ah ben ça, c'est évident. Et dans Intégral Tour même, puisque ça se passe depuis le Tour de France. Et c'est le sémillant. Alors, je sais qu'il sémille plus que jamais. Christophe Cessieux, que l'on retrouve sur la route du Tour. Et c'est un bonheur. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Autriche de F1. Amuse-toi bien, Christophe. Profite. Mais profite.
On t'attend, Jean-Luc. Tu sais que Christian Prudhomme a dit quand est-ce que Jean-Luc débarque sur le Tour de France.
Je vais venir, je te promets.
T'as intérêt à venir quand
plutôt
même.
Plutôt dans la deuxième partie, mais tu vas voir.
Ah oui.